Méditation contemporaine et prière chrétienne, voici la conférence du Père Jean-Marie Guelette, dominicain, théologien à l'Université catholique de Lyon. Ses travaux sur l'histoire de la spiritualité et sur le Père Lataste l'ont amené à travailler la question de l'influence de Maître Eckhart en France au XVIIe siècle. Le Père Jean-Marie Guelette a publié plusieurs ouvrages aux éditions du Cerf, dont notamment « Laisse Dieu être Dieu en toi » paru en 2002. Voici cette conférence du Père Jean-Marie Guelette enregistrée le 19 janvier 2017 à Sainte-Croix de Bayonne lors d'une soirée proposée par l'antenne de théologie des Pays de la Dour et la paroisse Saint-Vincent de Paul. Méditation contemporaine et prière chrétienne, le Père Jean-Marie Guelette.
Alors donc je suis heureux de vous retrouver ce soir pour vous proposer de réfléchir sur cette situation qui est assez complexe à analyser, mais qui, je pense, prend de plus en plus d'importance dans notre pays, c'est-à-dire le fait que se développe autour de nous une très forte proposition autour de la méditation, proposition de laquelle les chrétiens semblent passablement absents. Et donc, je vais tenter de voir un peu ce qui se passe, où sont les chrétiens dans ce phénomène, et puis qu'est-ce que nous aurions éventuellement à dire sur le sujet. Donc, la méditation apparaît comme une recherche de silence dans un monde qui fait beaucoup de bruit, comme une recherche de gratuité dans un monde où, dès le plus jeune âge, on met la pression sur tout le monde pour réaliser des performances. Une recherche de simplicité dans un monde où nous sommes saturés d'informations et d'activités. Une recherche de liberté à l'égard de l'ego, du moi, qui est devenu la seule référence. Il faut vivre comme si le moi était l'objectif. Vous savez, maintenant, on ne vous dit plus pour le confort des autres, pensez à fermer la porte. On vous dit pour votre confort, fermez la porte. Pour votre sécurité, un radar est en activité sur cette route. C'est de moi qu'il s'agit. Et le sommet étant cet admirable dessin du chat, vous savez, où il est devant un plan de ville et il y a écrit « Vous êtes ici ». Il se retourne en disant « Les nouvelles vont vite hein ». Mais comme toujours, le chat, c'est magnifiquement traduit cette idée que je suis le centre du monde. Alors il me semble que ces différentes raisons qui suscitent la demande à l'égard de la méditation, demande infiniment plus forte que ce que les chrétiens imaginent, il faut aussi la regarder comme une recherche qui est passablement paradoxale. Parce que on dit beaucoup dans la méditation qu'on recherche le silence, mais j'ai l'impression qu'en même temps, on a une terriblement peur du vide. On vise le silence, on vise la pleine conscience, et on multiplie les stages, on court après les conférences, les formations pour avancer dans cette pratique. Et il est assez paradoxal de voir que cette pratique qui met en avant la simplicité et la gratuité est à la source d'une activité commerciale considérable qui se développe et qui rend nécessaire les disques de musique de méditation, les livres sur la méditation, les stages de méditation, les accessoires de la méditation. Bref, la recherche du silence et du vide se transforme parfois en un bon business. On recherche la gratuité, mais on rencontre quand même beaucoup de personnes et beaucoup d'écrits qui nous parlent de la méditation, une fois encore, en termes de performance. Je lisais récemment un ouvrage de référence bouddhiste qui disait qu'on ne pouvait commencer à enseigner la méditation qu'après 30 000 heures de méditation. Alors j'ai essayé de compter, moi, pour me dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis à 30 000 ou pas. Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas de compteur. Mais je crois que la tentation de la performance, elle touche aussi cela. Et on voit bien ça fait une vingtaine d'années que je propose des stages de prière silencieuse, et on voit bien les gens qui disent avec une certaine fierté, j'ai fait une session de 5 jours où on méditait 10 heures par jour. Ben moi, j'ai fait une session de 10 jours où on méditait 14 heures par jour. Et là, on a l'impression que voilà, on va avoir des galons, quoi. Donc, je ne nie pas du tout la force de ce genre d'expérience. Je dis simplement que je vois que la performance, elle habite aussi ces pratiques-là. On essaye de se lancer dans la méditation pour se libérer du moi, pour lâcher prise, comme on dit souvent dans cette orbite-là. Mais c'est fascinant de voir que ces pratiques qui visent à nous libérer de l'ego suscitent une admiration pour des maîtres, pour des maîtres, des conférenciers, des maîtres dont l'ego est quelquefois relativement envahissant. Et ici, je suis particulièrement sensible au fait que le discours sur la méditation est un discours qui est souvent auto-référencé. Soit la personne qui prend la parole va se prendre elle-même comme référence ou va prendre sa propre expérience comme la référence. Et puis aussi, on va faire comprendre aux personnes qui écoutent que ce sont elles la référence. Vous n'allez pas tarder à vous rendre compte que vous allez ressentir que. Et quand vous aurez ressenti ça, vous aurez compris que ce que je vous enseigne, c'est vrai. Donc, vous voyez, une espèce de paradoxe entre on va chercher à se libérer d'une centration sur soi et en fait, on le fait avec des méthodes qui vous disent mais vous êtes la référence, vous êtes l'instrument de mesure, on peut dire, vous êtes le critère de la vérité de ce que vous vivez. Et puis aussi un autre paradoxe, c'est qu'on fait ça pour se libérer, je le disais, de la performance. On pourrait aussi dire se libérer de l'utilitarisme, du fait que nous agissons beaucoup pour que ça soit efficace, nos actions. Et vous savez bien que nous mangeons des yaourts ou bifidus actifs parce que c'est plus efficace. Nous ne mangeons pas aujourd'hui des aliments parce qu'on les trouve bons. On les mange parce qu'ils sont bons pour la santé, parce qu'ils font baisser telle valeur, ils ont tel effet sur la santé, et c'est ça qui est bien. Donc on est dans l'efficace à fond les manettes. Et en fait, on recherche des pratiques de méditation qui sont aussi dans l'ordre de l'efficace, de l'utile, et en particulier parce qu'elles ont des effets constatables. L'idéal est quand même qu'on puisse brancher des électrodes sur le crâne du méditant et que la science puisse venir valider que c'est une bonne méditation parce que telle ou telle zone du cerveau se trouve activée ou désactivée par la pratique. Et ça, je pense que ça vaut quand même la peine qu'on réfléchisse un peu là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que la valeur d'une pratique spirituelle vient du fait qu'elle est validée par la science. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un peu un court-circuit là-dessus? Plusieurs personnes ce soir m'ont dit qu'elles avaient participé à la journée de l'année dernière organisée par La Vie au théâtre du Châtelet à Paris, journée sur la méditation. Et vous vous rappelez peut-être que Mathieu Ricard avait été présenté sur scène comme le cerveau méditant le plus exploré au monde. Tonnerre d'applaudissements. Est-ce que Sainte-Thérèse d'Avila ou François de Sales sont des maîtres spirituels parce que la science va valider leurs propos spirituels? J'ai rien contre la science, j'ai rien contre François de Sales, je dis simplement qu'on ne joue pas dans la même cour et que les instruments de l'une ne sont en rien des critères de validité de l'autre. Parce que sinon, il faut que nos montres connectées nous alertent quand nous tombons amoureux, quoi, parce qu'elles vont nous dire, oui, vu la fréquence de votre pouls, c'est probablement que c'est sérieux, épousez-la. Enfin, et puis alors, il y a cette thématique absolument fascinante du lâcher-prise. Ça, c'est vraiment la valeur phare. On nous apprend dans les livres de méditation à lâcher-prise, mais on nous l'apprend en nous expliquant tout ce qu'il faut ressentir et tout ce qu'il ne faut pas penser, quoi. Donc on lâche, mais sous haute surveillance, c'est en ayant quand même des repères particulièrement clairs dans la vie. Hein. Y compris dans des domaines où on pourrait imaginer que c'est le moment de lâcher prise. Je lisais récemment un livre sur la méditation de pleine conscience où où on expliquait au lecteur que s'il était confronté à des épreuves de la vie ou à un deuil, eh bien, il ne fallait pas se laisser aller à la tristesse, quoi, qu'il fallait dépasser la tristesse, il faut. Alors, il faut savoir, est-ce que quand on est en deuil, si on lâche prise, peut-être qu'on va pleurer, peut-être que c'est pas grave, peut-être que ça fait partie du deuil. Ben non, il faut pas être triste, il faut pas. On rêve de lâcher prise, mais on est très réceptif à des prescriptions. Et je souligne d'emblée que ces prescriptions qu'on trouve dans cet enseignement de la méditation, elles sont souvent incroyablement prescriptives. Enfin, plus aucun curé n'ose parler comme ça. C'est très impressionnant, quoi, de voir combien ces disciplines-là peuvent être enseignées de manière relativement contraignante. Il y a une thématique qu'on rencontre souvent dans ce discours sur la méditation et qui peut nous faire réfléchir, c'est la question de la tradition. Il n'y a pas si longtemps, quand même, hein, la notion de tradition n'avait rien d'attirant. Elle permettait juste de désigner l'attachement de certains chrétiens à certaines formes de liturgie, et puis c'était ça la tradition, et ça faisait envie à personne. Et puis aujourd'hui, comme vous savez, c'est un argument de marketing que de dire que l'entreprise a été fondée il y a 50 ans, que la recette des petits pains est inchangée depuis 1884, ça fait vendre. Et dans le domaine spirituel, aujourd'hui, il n'est pas très bon de se présenter comme novateur. Enfin, il faut jouer sur un paradoxe, c'est-à-dire c'est une méthode nouvelle, mais qui est enracinée dans une tradition très ancienne. Mais cette tradition, elle est très particulière. Quand beaucoup font référence à une tradition, je dirais qu'elle n'est pas présentée comme une histoire. Elle est présentée comme une transmission de génération en génération d'une pratique. Telle technique respiratoire, telle manière de s'asseoir va être présentée comme une tradition qui est une pratique séculaire transmise de génération en génération. Mais on ne raconte pas l'histoire de ceux qui ont transmis la pratique. L'histoire de Juste est un peu provoque, mais c'est parce qu'il est tard et que tout le monde fatigue. Hein, on entend très souvent parler du bouddhisme tibétain aujourd'hui. On n'entend absolument jamais parler des violences interreligieuses dont il a été l'auteur et qui n'ont rien à envier au catholicisme des croisades. C'est tout aussi intolérant et violent. Alors c'est quand même étonnant de voir qu'on ne peut pas parler de l'Église sans entendre parler de l'Inquisition, de la Saint-Barthélemy et des croisades. Ça a l'impression que c'est la petite liste qui se déroule tout de suite. Et en revanche, du côté du bouddhisme tibétain, c'est uniquement des hommes de sérénité, merveilleux, etc. Il y a eu des gens, des artisans de paix dans l'Église, et il y a eu des brutes dans le bouddhisme tibétain. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas raconter l'histoire du Tibet? Pourquoi est-ce que, quand ça vient d'Orient, c'est uniquement la transmission d'une sagesse, la transmission d'une pratique? C'est ça, la tradition. Et on ne touche pas et on ne fait pas d'histoire en particulier. Et c'est toujours dangereux, vous savez, quand on ne fait pas d'histoire. Alors, dans ce contexte, qui, comme vous l'entendez, est passablement complexe, parce qu'il est porteur d'aspirations qui sont ô combien légitimes, enfin, qu'on ait envie d'arrêter un peu la machine, qu'on ait envie d'arrêter le flot de bruit d'informations, tout ça, qu'on ait envie de se retrouver, de se poser, éminemment légitime. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les moyens qu'on prend sont toujours les bons? Et puis, il n'est pas interdit, même quand on voit se développer un phénomène dans la société et qu'on se dit il repose sur des attentes légitimes, il n'est pas interdit aussi d'y voir un certain nombre de limites, de paradoxes, de choses qui sont éventuellement questionnables. Alors dans ce contexte, on peut se dire, où sont les chrétiens? Ils sont à la fois dedans et absents. Je voudrais d'abord insister sur le fait qu'ils sont dedans, parce que je crois que c'est toujours malvenu, si on peut dire, que de décrire un état de la société ou une dimension de la culture comme si les chrétiens regardaient ça du haut de leur balcon, mais qu'ils y étaient pour rien. Vous savez, alors on va parler d'Internet, comme si Internet c'était le diable affreux, etc. Et là, je pourrais faire un discours éminemment critique sur ces pratique de méditation comme si ça n'avait rien à voir avec nous et comme si on n'était pas. Ceci est absolument faux. Depuis 2000 ans, les chrétiens sont dans leur culture et vivent avec d'autres, parlent la même langue que les autres, regardent la même télé que les autres, enfin pas tout à fait depuis 2000 ans, mais voilà, nous sommes dans le bain. Et je crois que c'est toujours important de se le rappeler. Donc nous sommes dans cette culture et pas ailleurs. Culture de la performance, oui, aussi ô combien chez des chrétiens animés du souci de faire le mieux possible. Culture de l'ego, la mise en valeur du moi, oui, ô combien quand on est... Enfin, il y a une manière d'être attentif à sa vie intérieure, à sa vie spirituelle qui participe tout à fait de cette concentration sur l'ego. Dans une culture du tout médical, on voit se développer comme par hasard une spiritualité de la guérison en plein christianisme, oui, complètement. Voilà. Donc, nous sommes dans cette culture et pas ailleurs. Deuxième raison pour laquelle les chrétiens sont dedans, c'est que dans les pratiques de méditation, dans les lieux où l'on propose la méditation, on rencontre beaucoup de chrétiens qui trouvent là quelque chose qui répond à leur attente, alors que la plupart de ces pratiques de méditation ont leurs racines en dehors de la tradition chrétienne, qu'elles trouvent leurs racines dans les neurosciences, comme la pleine conscience, ou dans les diverses formes de bouddhisme ou d'hindouisme. Mais je crois que si des chrétiens vont s'engager, se nourrir spirituellement dans des pratiques venant du yoga, du zen ou du bouddhisme tibétain, c'est pas simplement un goût pour l'exotisme. Moi, je suis vraiment très attentif à cela parce que dans les sessions que je propose, j'ai très très souvent entendu cette histoire, c'est-à-dire que si des personnes qui étaient, en tout cas d'origine chrétienne, se sont engagées dans ces pratiques, c'est parce qu'ils ne trouvaient pas dans l'Église réponse à leur attente. C'est qu'ils ne trouvaient pas dans l'Église réponse à leurs questions, et je crois qu'il nous faut entendre ça, ce défi-là, avec toute sa gravité. C'est-à-dire que des personnes ont quitté l'Église parce qu'elles avaient soif de silence et d'intériorité. Enfin, c'est pas à prendre à la légère, ces affaires-là. Donc, l'Église ne répondait pas à leurs questions, entre autres, et ça je l'ai souvent constaté, entre autres parce que leur questionnement était d'abord d'ordre pratique. Comment faire? Comment prier? Comment retrouver le chemin du silence dans le mode de vie qui est le nôtre aujourd'hui? Et bien souvent, ils ont été d'abord demandés réponse à ces questions dans l'Église et personne n'a répondu. Et donc, ils se sont tournés vers des maîtres qui enseignaient cela concrètement. Je crois que dans l'Église, nous sommes très doués pour faire des beaux discours sur la prière. Mais en revanche, le fait que, ben vous savez, si je reste longtemps assis, j'ai mal au dos. Là, pas beaucoup d'interlocuteurs dans l'Église qui savent comment on fait avec ça. J'ai toujours gardé un souvenir ému d'un dialogue de haute spiritualité que j'avais eu avec une jeune femme qui venait me voir pour grandir dans la vie spirituelle, et puis elle me parlait du fait qu'elle essayait de prier en silence, et puis je lui dis « Comment vous faites ?» Alors elle me fait tout un baratin pieux sur « Vous savez, je ne suis pas contemplative, hein, donc j'ai du mal. Oui, mais vous faites comment ? Oui, mais vous savez, vraiment, je suis une grande pécheresse. Hein, oui, mais vous faites... » Et je répétais inlassablement « Vous faites comment ?» Alors vous savez, quand on répète 18 fois la même question, à la fin, finalement, les gens finissent par l'entendre. Et alors elle s'arrête brutalement, et son visage s'éclaire, elle me dit « Vous savez, je crois que c'est ma petite chaise qui est trop basse. » Et c'était extraordinaire, parce que je ne savais pas comment elle s'y prenait. Donc, je voulais juste qu'elle me raconte comment elle faisait, parce que je me disais, il y a peut-être des éléments, je sais bien par expérience, qu'il y a quelquefois des éléments tout à fait concrets qui font que les gens se disent « je suis incapable de prier », tout ça parce qu'ils s'assoient n'importe comment et qu'ils ne savent pas s'asseoir. Donc, je voulais aller là. Et donc, j'y allais avec la question « comment ?» au sens le plus pratique. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il a suffi que je lui pose la question pour qu'elle découvre par elle-même qu'elle avait décidé que c'était sûrement bien de prendre une chaise comme ça pour prier, et qu'en fait, elle y était très mal. Mais comme elle avait décidé que c'était sa chaise de prière, vous savez comment ils sont les gens, une fois que c'est ma chaise de prière, je ne bouge plus. Et je dis « je suis une pauvre pécheresse, Seigneur ». Et c'est pas, elle était sûrement pécheresse, mais elle était surtout mal assise, quoi. Donc, mais vous voyez le niveau mystique auquel je situe les dialogues avec moi. Donc faites attention, hein, ce soir, ça va être très très chaud. Mais le problème, c'est que des géants de la spiritualité qui sont capables de faire jaillir cette étincelle, ma petite chaise rouge est trop basse, eh ben, il n'y en a pas tant que ça dans la Sainte Église de Dieu, parce qu'on va partir tout de suite dans des discours admirables sur la prière, alors qu'en fait, les gens, ils n'ont pas besoin de discours admirables, ils ont besoin de conseils pratiques. Et c'est chez les profs de yoga ou les maîtres zen qui trouvent réponse à leurs questions. Je souligne que je ne crois pas que ces situations soient à regarder vraiment comme des situations de dialogue interreligieux, parce que les frontières sont très floues et que pour beaucoup de chrétiens, s'engager dans ces pratiques n'apparaît pas comme une forme de conversion à une autre religion. Ils restent chrétiens, au moins d'origine, mais... ils n'ont pas du tout le sentiment de passer à une autre religion, d'autant plus que si on prend l'exemple du bouddhisme, la plupart des personnes qui pratiquent dans un lieu de bouddhisme ne vont pas très avant dans la découverte de l'extrême complexité du monde de croyances bouddhiques. Hein. Donc ils rentrent dans la méditation et puis basta. Donc ils n'ont pas l'impression de franchir une frontière, de quitter une religion pour entrer dans une autre. D'autant plus que bien souvent, dans les lieux qu'ils fréquentent, ils se retrouvent en contact avec un discours qui leur présente ces pratiques de méditation comme une forme de spiritualité qui dépasse les religions, qui est au-delà des religions, qui a retenu l'essentiel de ce qu'était une religion en laissant tomber le côté institutionnel, le culte, les dogmes, etc. Et donc, on va très souvent, dans le domaine de la méditation, se retrouver devant un discours qui ne met surtout pas en valeur les différences. C'est extrêmement difficile de dialoguer dans ce domaine-là avec des personnes engagées dans d'autres voies, parce que dès qu'on va commencer à dire « bah là, comme chrétien, on est un peu différent », tout de suite, on va vous répondre « non, non, mais en fait, les mots sont différents, mais c'est la même réalité ». Ben non. Et puis j'aimerais bien qu'on me laisse dire « je suis différent » sans tout de suite m'absorber en me disant « non, non, tu dis la même chose que moi ». Ben non, pas forcément. Et c'est pas grave si on est différent. Enfin, je crois qu'il y a dialogue interreligieux à partir du moment où on se reconnaît différent. Pas si on essaye de mélanger tout en disant... Alors le sommet, ça avait été justement dans cette journée du Châtelet, une personne qui m'aborde en me disant... je fais de la méditation avec des enfants et je voudrais avoir une phrase des principaux intervenants de la journée. Est-ce que vous pouvez me donner une belle phrase ? Alors je lui dis, je sais pas, parce que moi je parle de la prière chrétienne, vous, je sais pas, puis les enfants avec qui vous pratiquez, je sais pas où ils sont, je vais pas leur imposer un propos chrétien alors que je sais pas où on est, quoi. Et là-dessus, elle me répond, non, mais c'est pas grave, parce que si vous savez, si dans votre phrase il y a Dieu, je remplacerai par se connecter. Se connecter, oui, se connecter. Et elle a été très, très étonnée parce que je lui ai dit, non, je ne vous aurai pas une belle phrase dans laquelle vous allez remplacer Dieu par se connecter. Mais... alors là, c'était d'une brutalité caricaturale. Hein. On rencontre quelquefois des gens un peu plus fins que ça. Mais quand même, enfin, c'est assez terrifiant. Vous voyez, c'est-à-dire, tu appelles ça Dieu, mais les autres appellent ça autrement et ça n'a aucune importance. Si, c'est le cœur de ma foi, donc au nom de quoi quelqu'un va me dire ça n'a aucune importance. Enfin, vous voyez, sous prétexte d'un discours sympa, on est tous pareils, moi je trouve que ce n'est pas un discours sympa du tout, c'est un discours d'une extrême violence en fait. Mais c'est le discours largement développé dans ce grand champ de la spiritualité contemporaine, où on fait comprendre que la religion n'a aucune importance, qu'elle est plutôt un frein à la vie spirituelle, et que s'il y a des différences entre les religions, c'est uniquement des différences de vocabulaire qui désignent toujours la même chose. Vous savez, l'ineffable image inlassablement répétée de l'importance et le sommet, peu importe les chemins qui y montent. Je ne suis pas sûr, même si notre Seigneur Jésus a dit qu'il était le chemin, c'est pas simplement un itinéraire balisé, c'est peut-être plus important que ça. Donc il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui sont dans ces domaines-là et qui n'ont, je crois que c'est vraiment important de souligner qu'ils n'ont pas le sentiment, en rentrant dans ces pratiques, de s'éloigner tant que cela de leur base. Mais à la question « où sont les chrétiens ?», on peut tout autant répondre « les chrétiens sont dramatiquement absents ». Si il y a en effet des chrétiens présents dans les lieux où on pratique la méditation, on peut trouver des chrétiens parmi les méditants. En revanche, il nous faut reconnaître que la tradition chrétienne, qu'une pratique chrétienne identifiable, est largement invisible dans le monde de la méditation. L'Église n'est pas reconnue comme une structure susceptible d'être porteuse de sagesse par rapport à ce que d'autres sagesses semblent pouvoir apporter. Et là encore, on ne sait pas très bien pourquoi. Un moine tibétain, c'est bien. Un moine français, c'est un pédophile. Bon, c'est des catégories peut-être un peu à la hache quand même, mais peut-être qu'on pourrait essayer de rééquilibrer un tout petit peu. Tout petit peu. Mais donc, on a l'impression que l'Église en tant que telle n'a pas droit à la parole, et puis de toute façon qu'elle ne la prend pas, la parole. C'est-à-dire que la noble paroisse Sainte-Croix de Bayonne me donne la parole ce soir et qu'elle en soit remerciée jusqu'à la 14e génération, mais c'est très rare. Non, mais vous rigolez, mais c'est très rare quand même. C'est très rare qu'une paroisse catholique française prenne le temps de s'asseoir un soir pour dire, au fait, oui, tout le monde parle de méditation autour de nous, au fait, de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on en fait. Alors que c'est un phénomène majeur. Je voyais, je fais de publicité pour personne parce que je n'ai pas retenu le nom, mais je me promenais cet après-midi dans le centre-ville de Bayonne, et il y avait une librairie qui avait toute une vitrine sur la méditation, c'était sûrement en lien avec la conférence de ce soir. J'ai pris ça comme un hommage, n'est-ce pas ? Mais enfin, c'était un hommage relatif parce qu'il n'y avait pas un bouquin chrétien. Il y avait peut-être 25 bouquins en vitrine sur... le titre de la vitrine, c'était « 2017 sera zen ». Bon, très bien. Et il n'y avait que des bouquins, pas uniquement zen, mais le bien-être, la méditation, le silence, ben ça. Et pas un livre chrétien. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ce qui est aussi un peu inquiétant, c'est que les rares chrétiens qui prennent la parole ou qui écrivent à propos de la méditation le font le plus souvent en référence à des pratiques venant d'Orient ou d'Extrême-Orient, et pas du tout en référence à une pratique chrétienne. Jésus, le mantra de Dieu. Bon. Ben, c'est des titres qui me laissent un peu rêveur, parce que je crois que ça n'est respectueux ni du Christ, ni de ce que c'est que le mantra dans des pratiques bouddhistes. Donc on est dans une espèce d'amalgame bizarre, quoi. Et donc on va réduire à ce moment-là Jésus à un maître au plan moral, en s'empressant de dire que la charité chrétienne c'est bien parce qu'elle ressemble à la compassion bouddhiste, c'est pour ça qu'elle est bien, hein, et en oubliant que que la charité chrétienne c'est pas la compassion bouddhiste. Bien sûr il y a des points communs de sollicitude à l'égard de celui qui souffre, mais fondamentalement quand même la charité dans le christianisme c'est entrer dans la vie de communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc non, c'est pas la compassion bouddhiste. Je suis confus, ça peut entraîner les mêmes gestes que la compassion bouddhiste, mais le sens que des chrétiens lui donnent est pas du tout le même. Mais ça on va pas le dire parce que ça se vend pas. Et donc, ça pose quand même la question de se dire, est-ce que pour être présent dans le monde de la méditation, il nous faut transformer l'expression de la foi pour la rendre zen compatible, quoi. Est-ce qu'il nous faut faire... Parce que je souligne que c'est exactement ce que font beaucoup de maîtres à référence bouddhiste. C'est-à-dire que le bouddhisme à l'occidental n'a pas grand-chose à voir avec le bouddhisme, qu'il soit tibétain ou d'autres traditions. Hein, donc on a élagué au maximum le bouddhisme pour qu'il soit compatible avec des attentes occidentales. On le marie, comme je l'évoquais tout à l'heure, joyeusement avec les neurosciences. Bon, ça fait vendre les ouvrages sur le bouddhisme, mais est-ce que le bouddhisme ne va pas s'y perdre? Je crois que c'est... Je ne sais pas s'ils mesurent combien ils sont en danger pour la cohérence même de leur tradition. On peut constater que la méditation bouddhique a des effets neurologiquement mesurables, d'accord, mais ça vous ferait quel effet si on disait la prière du chapelet a été validée par la neuroscience parce qu'on a constaté que la stimulation du bout des doigts par les grains du chapelet entraîne une production d'endorphines? Donc le chapelet est une prière valable. Enfin, vous voyez bien que ça, on se dit, bon, et alors ? Enfin, bah bon, très bien, mais c'est pas pour ça, ni qu'on va s'y mettre, ni qu'on va s'arrêter si on s'y était mis. Enfin, ça, on va se dire, mais aucun rapport. Bon. Or, beaucoup d'auteurs bouddhistes occidentaux disent, vous voyez, c'est validé par la science, donc vous pouvez nous croire. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut que les traditions religieuses aussi anciennes, aussi vénérables que le bouddhisme tibétain, le zen, le yoga ou les pratiques chrétiennes, est-ce qu'il est nécessaire de les relooker et de les tailler, ça donne vraiment cette impression-là, pour que ça rentre dans le marketing, si on peut dire, de la méditation contemporaine. Je pense que c'est ça qui est vraiment très complexe dans le sujet que je traite ce soir, c'est que je suis ô combien à l'écoute de cette attente considérable de nos contemporains. Je suis ô combien convaincu que c'est une attente légitime. Et en même temps, je pense qu'il ne s'agit pas de se dire tous les moyens sont bons pour y répondre. Il s'agit de faire preuve d'un peu de discernement. Alors, ce qui est terrible, c'est que donc les chrétiens se taisent. Ou quand ils prennent la parole, ils le font à partir de sources non chrétiennes, alors que nous avons dans notre tradition chrétienne un héritage, un patrimoine, si on peut dire, considérable sur ce sujet. On a tout ce qu'il faut en christianisme pour pouvoir enseigner la méditation, et que cet héritage est totalement inconnu, parce que pour des raisons historiques un peu complexes, il y a une rupture de transmission depuis, en gros, la fin du XVIIe siècle. Alors, je voudrais juste, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et puis je vais publier début avril un petit bouquin sur la question qui s'appellera « L'assise et la présence », où je vais présenter cette tradition chrétienne. Mais je voudrais juste vous donner comme ça un avant-goût pour vous dire oui, on a des choses tout à fait étonnantes dans le patrimoine chrétien. À propos de, je vais prendre trois domaines qui sont essentiels à la pratique de la méditation, l'assise, le souffle et la présence. Au second siècle, saint Jérôme définit le moine chrétien en disant « Le moine se reconnaît non à ses paroles et ses discours, mais à son assise en silence ». J'aurais pu vous donner la citation en vous demandant d'où ça venait, et vous m'auriez sans doute dit « Ça c'est typiquement zen hein ». Le moine ne se reconnaît pas à ses paroles et à ses discours, mais à son assise en silence. Saint Jérôme. Parce qu'en effet, les premiers moines, les pères du désert, passaient beaucoup de temps à ne rien faire. Et c'est un combat terrible de ne rien faire. Rester assis en silence dans la cellule. Ils disaient les psaumes, généralement ils disaient les 150 psaumes de mémoire dans la journée, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis sinon, ils apprenaient à rester assis, en silence, immobile. Très important de rester assis, en silence, immobile, parce que ça veut dire qu'on arrête de travailler. C'est très, comment dire, c'est très utile et fécond de savoir prier en faisant autre chose, de savoir prier en marchant, de savoir prier en épluchant des carottes. Mais attention que si on est uniquement dans cette idée d'une prière continuelle, y compris quand on fait autre chose, ça veut dire que la prière est toujours seconde par rapport à ce qu'on fait, quoi. Qu'il n'y a aucun moment où on arrête tout pour dire maintenant l'important c'est de prier. Et donc les moines, ils avaient compris ça, ils avaient compris qu'il y avait un moment où il fallait arrêter de travailler de ses mains, arrêter toute activité pour donner du temps à Dieu. Le temps, c'est tout ce que l'homme peut donner à Dieu. Tous nos efforts, toute notre activité, tous nos engagements, tout ce que nous faisons, c'est pas des choses que... on peut bien sûr le donner à Dieu, mais si nous le faisons, c'est bien parce que Dieu nous a rendus capables de le faire, quoi. Alors que lui donner du temps gratuitement, ça c'est vraiment un don que nous pouvons faire à Dieu. Se tenir simplement dans sa présence. Alors cette pratique, on la rencontre tout au long de l'histoire. Je vous citerai comme ça des auteurs simplement pour vous dire qu'il y a du monde dans la tradition et que si on se fatigue un peu, on trouve beaucoup de beaux enseignements. Assis dans ta demeure, souviens-toi de Dieu. C'est un ermite grec du Moyen-Âge qui dit ça. Assis dans ta demeure, souviens-toi de Dieu. C'est simplement ça, se poser et se souvenir de Dieu. c'est pas de l'oisiveté, c'est pas de la relaxation, c'est pas, il ne s'agit pas de rêvasser à Dieu. C'est un combat terrible que de s'arrêter et de ne vraiment rien faire. Je le vois bien dans les sessions. Les gens aimeraient tellement que je leur donne des conseils compliqués, une méthode compliquée, il y aurait des tas de choses compliquées à apprendre. Et de s'asseoir et de ne rien faire. Oula, 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 oula. Ça ne va pas durer trop longtemps, cette affaire-là. Hein. Or, le grand commandement, si on peut dire, de tous les maîtres spirituels de la tradition monastique depuis les pères du désert, c'est de dire à leurs disciples « Garde la cellule ». « Mais mon père, j'ai envie de fuir. Garde la cellule. Mais mon père, je pense tout le temps aux femmes. Garde la cellule. Mais mon père, je me suis peut-être trompé. Garde la cellule. » Ça semble un petit peu répétitif, mais c'est un lieu très concret de combat, résister à la tentation de prendre la fuite et se tenir là pour le temps qu'on a décidé de donner à Dieu en se disant ben, « ce temps-là, il ne m'appartient plus, il est à Dieu ». Alors on est prêt à tout pour combler le vide, hein, tout. Répondre au téléphone, passer un mail urgentissime, tout ce que vous voulez. Nous connaissons tous cette tentation. Eh bien, ça fait des siècles que les moines la connaissent et qu'ils ont compris que l'essentiel était de se tenir là, sans rien faire, pour offrir ce temps-là à Dieu. Alors, est-ce que la tradition chrétienne a enseigné des choses dans le domaine de l'assise? Est-ce qu'elle a donné des prescriptions de posture corporelle? Alors là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'enquête que j'ai menée dans l'histoire, c'est qu'il y a vraiment un point qui est commun à tous les auteurs chrétiens qui enseignent une forme de prière silencieuse, c'est de ne pas enseigner de posture corporelle, de ne pas dire « il faut être comme ça ». Il s'agit de prendre, pour, là j'emploie une expression plutôt du XVIIe siècle, la posture qui convient. Ça semble un peu court. Les Yoga Sutras, ça fait des centaines, des milliers de pages, et nous on dit « prends la posture qui convient ». Bon, évidemment, on dirait « ils sont un peu nuls les chrétiens ». Mais ce n'est pas du tout, pas du tout, pas du tout une manière de mépriser le corps. Au contraire, c'est une manière d'être dans une très grande attention à la singularité de chacun. Le plus ancien texte chrétien que j'ai trouvé sur le corps dans la prière, c'est un texte d'Origène, second siècle, qui dit le chrétien qui se tourne vers le Christ, c'est Christ ressuscité, donc il est assez normal qu'il soit debout. Mais s'il a mal aux pieds, il peut s'asseoir. Ça fait rigoler, on se dit, bon, c'est pas très fortiche comme enseignement. Je crois que c'est très profond de dire ça. De dire, ouais, mettez-vous plutôt debout, parce que vous participerez symboliquement à cette posture de celui qui se redresse, qui est debout dans la vie, sauf si vous avez mal aux pieds. Donc c'est pas la station debout obligatoire, ça dépend. Et donc l'important, c'est de trouver la posture dans laquelle le sujet sera bien. Je me rappelle, j'ai commencé ces sessions, j'étais en Bretagne, et j'ai encore dans la tête une image, je regrette vraiment de ne pas avoir pu prendre une photo, j'avais devant moi une vieille dame bretonne plutôt, là, et qui était là, les genoux un peu écartés, puis elle avait sa canne, comme ça, et puis vraiment comme un petit vieux corse dans Astérix, vous savez, elle ne bougeait pas, elle était parfaitement stable, c'était sa posture. Et puis juste devant elle, dans mon axe de vision, il y avait un gars qui venait du zen, qui était dans un lotus parfait, les doigts exactement comme il faut, le crâne rasé, le regard d'acier, tout bien parfait. Et il était parfaitement bien aussi à sa place. Et ils étaient l'un en face de l'autre, enfin, l'un derrière l'autre dans mon champ de tir, quoi. Et je trouvais ça génial, je me disais, voilà, si j'avais demandé à la vieille dame de faire un lotus complet, je pense qu'elle aurait peut-être grincé un peu. Et si j'avais interdit à cet homme de se mettre en lotus, il n'aurait pas compris, parce que pour lui, c'était sa posture. Et je pense que... Moi, je les ai accueillis assez spontanément comme ça. Et puis, depuis le départ, je dis aux gens que je suis là pour les aider à trouver leur posture. Parce que j'ai fait ça un peu, je dirais presque... Au début, j'ai cru que je faisais ça d'instinct. Et puis, à force de lire ces textes, je me suis dit, non, j'ai fait ça parce que j'étais chrétien. Et des chrétiens, ils ont toujours fait comme ça. De dire, voilà, tel que vous êtes, vous allez trouver votre manière d'être, parce que Dieu vous aime comme vous êtes, et donc vous n'allez pas faire des performances extraordinaires, c'est pas la peine. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez vrai, on pourrait presque dire. Donc c'est aussi, je pense, beaucoup pour ça que les chrétiens n'ont pas développé des grands discours sur la posture. Et puis l'autre raison capitale, c'est notre théologie de la grâce, c'est-à-dire que si la prière est une forme d'union à Dieu, cette union, elle est don de Dieu, elle n'est pas le fruit des efforts de l'homme. Et donc il n'est pas question pour nous de laisser penser que Dieu soit accessible par une technique. Alors si le christianisme peut se montrer toujours un petit peu prudent par rapport à des techniques, c'est pas par mépris du corps, c'est par respect de la grâce, c'est par respect du don de Dieu. Donc après l'assise, il y a la question du souffle. Alors ici encore, on ne trouve pas d'analyse très, très fine dans la tradition chrétienne de la respiration, mais en revanche, on trouve assez souvent l'idée que le souvenir de Dieu dont je parlais s'articule avec la respiration, qu'il puisse trouver un appui dans la respiration. Saint Jean Climaque, au 7e siècle, ça a été un des grands auteurs spirituels de l'Orient, avec son livre « L'échelle des moines », qui a été un des grands classiques monastiques, aussi bien en Orient qu'en Occident. Il dit que le souvenir de Jésus ne fasse qu'un avec ton souffle. Que le souvenir de Jésus ne fasse qu'un avec ton souffle. Ça veut dire que je suis un peu attentif à ma respiration et que simplement à chaque mouvement de la respiration, je vais caler. Moi, j'aime bien l'idée que je vais poser sur ma respiration, par exemple, le nom de Jésus, tout simplement. Et me maintenir de cette façon dans le souvenir de Jésus, dans l'attention portée à la présence de Jésus, simplement en lien avec ce rythme tranquille de la respiration. 1000 ans plus tard, au XVIIe, je trouve en France un capucin qui encourage son lecteur à respirer Dieu. Respirer Dieu. Le souffle ici est encore un appui qui permet de se tenir dans la présence sans faire de discours. Respirer Dieu, ça veut dire qu'on va pas parler à Dieu, on va pas lui raconter des tas de choses. On va simplement être attentif à cette présence de Dieu comme on est attentif à sa respiration. Être centré là-dessus à partir de la respiration, et si des pensées assaillent l'esprit, eh bien on revient tranquillement en restant appuyé sur le souffle. Je le cite, donc ce brave homme s'appelle Constantin de Barbançon, c'est peut-être pas un de vos auteurs spirituels les plus familiers, mais c'est pas grave. Ainsi donc, l'âme en cet état n'est ni oiseuse, donc pas dans l'oisiveté, ni en pure attente, mais elle est en continuelle opération, non pas d'élévation ni de cherchement de Dieu, mais plutôt d'embrassement de lui, comme d'embrassement de lui au centre, n'étant en paix que si elle se sent ainsi respirer en Dieu, respirer tranquillement en Dieu, sans être dans le cherchement de Dieu, donc sans être tendu à essayer de le chercher, mais simplement l'accueillir, le recevoir, l'embrasser tranquillement sur la respiration. Ayant trouvé dans l'assise et le souffle les points d'appui physiques, si on peut dire, qui sont bien, bien utiles, alors la prière chrétienne peut se tourner vers ce qui est l'essentiel pour elle, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et là, j'insiste fortement, je pense qu'il y a là une différence fondamentale entre la prière chrétienne et les pratiques de pleine conscience. Ces pratiques de méditation, de pleine conscience, peuvent être une préparation très, très utile. Elles peuvent vraiment aider des personnes à se calmer, à se poser, à être là. Mais simplement, il s'agit d'être là, il s'agit d'être présent, et d'être présent à soi et au monde qui vous entoure. Dans la prière chrétienne, il s'agit d'être présent à Dieu. Il s'agit de répondre à Dieu qui est présent. Donc la prière chrétienne est toujours adressée à quelqu'un. Que ce soit une parole adressée, que ce soit un silence adressé. Vous êtes en train de m'adresser un silence. Si je peux parler, c'est bien parce que vous m'offrez votre silence attentif. Vous seriez tous en train de dormir, j'arrêterais de parler. Bon, vous n'êtes pas loin, d'accord, mais quand même, vous êtes bien là. Quand même, hein. C'est votre silence qui me permet de parler. Donc le silence, il peut être adressé. Il est adressé à quelqu'un. Vous seriez tous en train de regarder le plafond, je me poserais de sérieuses questions sur l'intérêt de poursuivre cette soirée. Vous me regardez, donc vous me donnez envie de vous parler. Eh bien, la prière, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, nous sommes silencieux, mais nous ne sommes pas silencieux tout seuls. Nous sommes présents, mais pas simplement en contact avec soi. Nous sommes tournés vers lui. Et il s'agit bien de se rendre présent à Dieu qui est déjà présent. Il ne s'agit pas de chercher Dieu, il ne s'agit pas de déclencher la présence de Dieu, il s'agit de la reconnaître. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », dit le Christ, à la finale de Matthieu. C'est à prendre très au sérieux cette affaire-là. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et donc pour nous, chrétiens, Dieu n'est pas perdu dans des hauteurs inaccessibles, il n'est pas dilué dans la grande énergie du monde. Il est quelqu'un qui se tient au plus près de nous, dans la proximité, dans la bienveillance. Et on a même pu aller jusqu'à penser que cette présence n'est pas simplement auprès de nous, mais en nous. « Votre corps est le temple du Saint-Esprit », disait Paul aux Corinthiens. Donc l'homme est habité par cette présence, présence ô combien paradoxale, parce que le mystère insondable de la Trinité, le Créateur du monde, se tient dans le cœur de l'homme, le plus immense dans le plus limité. Alors c'est un paradoxe insurmontable si on pense tout ça de manière localisatrice, en disant à quel endroit il se trouve. Il ne s'agit pas de désigner l'endroit où Dieu se tient, il s'agit de dire la proximité à travers l'image de Dieu en nous. Il s'agit de dire la proximité, il s'agit de dire l'intimité de la présence de Dieu. Et donc la prière chrétienne, c'est fondamentalement ça, en tout cas dans la prière silencieuse, de se placer en relation, en contemplation de cette présence de Dieu qui nous précède toujours. Alors comment fixer son attention sur cette présence de Dieu si on veut durer un peu dans la prière? Eh bien, c'est un problème aussi ancien que la prière silencieuse, à laquelle les chrétiens ont répondu, comme d'autres traditions d'ailleurs, bien souvent par la pratique de la prière répétitive, que ce soit la répétition d'un verset biblique, que ce soit la prière répétitive du chapelet ou du rosaire, que ce soit, et c'est plus adapté à la prière silencieuse dont je parle ici, la méditation au sens chrétien, la répétition simplement d'un mot pour se tourner vers Dieu, et le plus recommandé est de prier sur un nom, sur le nom que l'on donne dans le secret de son cœur à Dieu. Très important le nom, parce que dire le nom de quelqu'un, c'est bien le désigner dans sa présence vivante et unique, et en même temps ce n'est pas le définir. Si vous dites que vous attendez le plombier, c'est bien que vous attendez quelqu'un dont la compétence vous est utile, mais que le plombier soit père de famille ou qu'il aime la pêche à la ligne, ça ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez, c'est le plombier. Alors que si vous attendez Bernard, Bernard est peut-être entre autres plombier, mais en fait vous attendez votre ami Bernard, et c'est pas ses compétences qui sont en première ligne pour vous. Et donc dans la prière, on s'attache quelquefois un peu trop à tel ou tel aspect du mystère de Dieu qui nous parle. Dieu comme médecin, Dieu comme créateur, Dieu comme juge, Dieu comme sauveur, tout ce que vous voulez, qui est vrai, mais qui désigne une manière d'entrer. Alors que si je dis son nom, je dis tout cela et je dis bien plus encore, je dis la présence de quelqu'un. Et donc la tradition, elle dit ça, elle dit la tradition de cette prière. Alors le gros mot pour désigner la prière, cette prière-là, c'est la prière monologiste. C'est pas un monologue de quelqu'un qui parle tout seul, c'est le monologiste, ça veut dire la prière sur un seul mot. Et donc, ça fait très très longtemps, depuis les origines de la vie monastique, que des chrétiens pratiquent cela, c'est-à-dire la répétition tranquille du nom de Dieu. Par exemple, une parole qu'on attribue à saint Antoine, père des moines, « Nourris ton âme des paroles de Dieu, des veilles, des prières, et surtout de la pensée toujours présente du nom de notre Seigneur Jésus. » Pensée toujours présente du nom de Jésus. Alors on a beaucoup d'exemples de cette prière sur le nom de Dieu dans la tradition chrétienne. C'est cette prière sur le nom qui a donné plus tard, au XIIIe, XIVe siècle, au mont Athos, le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la prière de Jésus ou prière du cœur. « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. » C'est le développement d'une prière qui était simplement au départ sur « Seigneur Jésus » et puis qui s'est développée après sur la phrase longue. Mais donc il y a des témoignages très nombreux de cette prière sur le nom. Donc il me semble que oui, nous avons... encore, je ne vous ai pas assommé de citations, mais nous avons énormément de textes, énormément d'auteurs qui peuvent nous aider à pratiquer cette forme de méditation propre aux chrétiens, d'être assis tranquillement en présence de Dieu, et que cette pratique, elle peut répondre à l'attente de beaucoup de nos contemporains, à condition qu'on n'y cherche pas ce qu'elle ne peut pas donner. Elle n'est pas un exercice corporel, elle n'est pas une démarche exclusivement spirituelle, elle conjoint les deux, comme toujours en christianisme. Elle appuie l'élan vers Dieu sur le souffle et sur la posture. Et donc elle nous rappelle que notre corps est impliqué dans notre relation à Dieu, ce qui n'est pas inutile de se le rappeler. Mais en même temps, elle rappelle aux passionnés de la méditation qu'une véritable expérience spirituelle ne peut pas se limiter à une expérience corporelle ou psychologique. Je suis un peu dubitatif devant l'usage, à mon avis, un peu rapide des termes d'expérience spirituelle ou de spiritualité quand il n'y a pas de rapport à un autre, quand il s'agit simplement d'être en contact avec soi. Pour ma part, un peu de mal à envisager que l'homme puisse avoir une expérience spirituelle simplement dans le rapport avec soi et non dans l'ouverture à la présence d'un autre dont il reconnaît à la fois la présence et le mystère insondable. Il est important de rappeler aussi que la prière silencieuse ne sert à rien et que donc si on a un rapport utilitaire de l'ordre de l'efficace à la méditation, on va être frustré parce que la prière silencieuse ne sert à rien parce que Dieu n'est pas de l'ordre de l'utile. Je ne dis pas que la prière silencieuse ne peut pas changer quelque chose dans nos vies, ô combien. Elle peut tout à fait transformer une existence, mais on ne la pratique pas pour se sentir bien, on ne la pratique pas pour atteindre des états de conscience modifiés, on ne cherche pas à mesurer quel effet elle a pu avoir. Je crois que toute démarche spirituelle dont la finalité serait mon propre bien est vouée à l'échec. Ce qui ne veut pas dire que la démarche spirituelle ne fait pas du bien. Mais la finalité, ce que je cherche en premier, si je me cherche moi dans la démarche spirituelle, je ne suis pas dans une démarche spirituelle. Et donc, si elle produit des effets dans une existence, c'est parce qu'elle repose dans la capacité à s'engager dans la gratuité, sans autre propos que de donner à Dieu du temps pendant lequel on ose ne rien faire. Et puis je crois que la prière silencieuse peut procurer de la joie, elle peut apporter certaines convictions qu'on est en train de faire quelque chose qui est juste, mais elle n'apportera jamais la plénitude. Je suis très critique par rapport à cette idée de pleine conscience. Je crois que c'est une illusion. Prier, c'est toujours faire l'expérience, parfois humiliante, que nous ne sommes pas à la hauteur du mystère dont nous nous approchons. Donc nous ne sommes jamais pleins de Dieu, parce que nous ne sommes pas du tout des contenants adaptés au contenu. Et donc nous ne sommes jamais pleins de Dieu, ça ne rentre pas. Et donc, prier, c'est faire l'expérience des apôtres. « Seigneur, apprends-nous à prier. Nous ne savons pas prier. » Prier, c'est toujours faire l'expérience de ses limites, l'expérience un peu humiliante de devoir inlassablement se recentrer sur cette présence de Dieu qui devrait quand même focaliser toute notre attention au moins quelques minutes par jour et que nous fuyons en nous demandant comment, à quel moment il faut mettre le vin rouge dans le bœuf bourguignon parce que c'est finalement quelque chose qui nous intéresse plus que de penser à Dieu. Et donc oui, nous ne sommes pas pleins. La prière silencieuse, c'est tout sauf une conscience pleine. C'est une conscience qui, humblement, pauvrement, ne cesse de revenir vers Dieu après s'être détournée pour contempler que lui est resté fidèlement présent. Donc la prière silencieuse, ça consiste inlassablement à dire « Seigneur, me revoilà ». « Seigneur, j'étais parti, mais me revoilà ». Donc c'est pas plein du tout. Donc vous voyez, je suis parti en vous disant que la situation était complexe et je termine en insistant là-dessus. C'est-à-dire que je ne suis surtout pas en train de vous dire il y a des gens qui cherchent quelque chose dans la méditation. Nous avons le produit phare qui répond exactement à leur demande. Il suffit d'un petit effort de marketing et ça va marcher d'enfer. Ben non. Parce que notre proposition, ce n'est pas étonnant qu'elle soit un peu décalée. Elle n'est pas complètement ailleurs, et donc je pense que ça serait bien que des chrétiens se réapproprient cette magnifique tradition qu'ils ne connaissent pas. D'abord parce qu'ils seraient un peu moins fascinés par tout ce qui vient d'Orient, et puis parce qu'ils découvriraient qu'ils n'ont pas à avoir honte de leur tradition. Mais en même temps, il est capital de se réapproprier cette tradition en disant « Elle peut, pour une part, répondre à des attentes qui s'expriment dans le domaine de la méditation. Et puis, pour une part, elle est volontairement décalée. Il faut qu'elle le reste, parce qu'elle restera gratuite, parce qu'elle ne sera jamais une technique pour déclencher l'union avec Dieu, parce qu'elle aura toujours cette humilité, si on peut dire, de celui qui s'approche d'un mystère qui le dépasse. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là.
Méditation contemporaine et prière chrétienne, vous venez de suivre une conférence du Père Jean-Marie Guelette, dominicain, théologien à l'Université catholique de Lyon. Il a publié de nombreux ouvrages aux éditions du Cerf. Cette conférence a été enregistrée le 19 janvier 2017 à Sainte-Croix de Bayonne, lors d'une soirée proposée par l'antenne de théologie des Pays de l'Adour et la paroisse Saint-Vincent-de-Paul.